Il est 7h47, Léa Salamé, votre invitée ce matin est défenseur des droits.
Oui, bonjour Claire Hédon.
Bonjour Léa Salamé,
merci
bonjour
d'être
à
avec
toutes et tous.
Nous. Merci d'être avec nous ce matin. Vous publiez ce rapport, votre rapport annuel sur les droits des enfants. Un rapport qui est cette année, je dois dire, très intéressant et même très inquiétant sur la santé mentale des enfants. Dépression, troubles anxieux, addiction aux écrans, la santé mentale des jeunes s'est détériorée sensiblement pendant la crise sanitaire, écrivez-vous. Et vous écrivez, attention, il y a urgence.
D'abord, je voudrais bien qu'on définisse de quoi on parle quand on parle de la santé mentale des enfants. En fait, on parle d'un état de bien-être qui permet à l'enfant de se développer correctement dans de bonnes conditions. On le comprend très bien, un enfant qui va pas bien aura des difficultés d'apprentissage, fera un adulte qui va pas bien dans une société qui ira pas bien. Et il y a effectivement urgence à agir parce que la crise sanitaire que nous traversons a aggravé la situation. Vous avez déjà reçu de nombreux pédopsychiatres qui le disent, un doublement des consultations, des difficultés d'accès. D'autres rapports l'ont déjà dit et je voudrais du coup insister dans ce rapport sur ce que nous on dit en termes de prévention parce que d'autres rapports ont déjà dit les difficultés d'accès, des délais de 6 mois, 1 an pour avoir un psychologue dans des CMPP.
Ça vous dit attention les pédopsychiatres, mais le problème c'est qu'il en manque en fait.
On en manque, c'est tragique parce que du coup, alors qu'on pourrait agir très rapidement, vous savez qu'un enfant en quelques séances avec un psychologue peut aller très vite mieux et du coup peut être dans de meilleures conditions d'apprentissage alors que là, avec ces délais. Et surtout on crée une injustice parce que des gens qui ont des moyens vont aller consulter un psychologue, une psychologue dans le privé. Et les gens qui n'ont pas les moyens sont obligés de passer par le public et ont des délais d'attente. Et on a voulu alerter parce que manifestement, un doublement de jeunes qui sont dans des situations dépressives et sur lequel il faudrait pouvoir agir le plus rapidement possible. Et la crise que nous traversons est révélatrice, mais de quelque chose qui existait déjà avant. Il ne faut pas se leurrer.
Ce qui est vrai, mais c'est accentué. Vous dites en 2019, 10% des enfants des 15-24 ans présentaient un trouble dépressif. Aujourd'hui, ils sont 20%.
Absolument.
Donc, c'est quand même un chiffre étonnant. Il y a aussi les phobies sociales. Vous parlez du syndrome de la cabane. Le gamin qui a peur maintenant de sortir de chez lui.
Et on est vraiment dans ce que je vous disais, c'est que quand on prend en compte la santé mentale, l'environnement est absolument capital. Et c'est bien l'angoisse des adultes qui, dans ces cas-là, se répercute sur les enfants. Et dans ce rapport, on parle de tous les enfants, parce que cette question concerne tous les enfants. D'ailleurs, tous les adultes, en fait absolument tout le monde, notre société dans son ensemble, mais évidemment les enfants les plus fragiles, que ce soit des enfants malades en situation de handicap, en situation de précarité, payent un encore plus lourd tribut à la crise que nous traversons.
Ou les enfants placés dont on a beaucoup parlé cette semaine, et vous dites notamment le port du masque chez les adultes qui angoisse et fragilise tous les enfants de maternelle, dites-vous, parce qu'on peut pas voir les réactions de la maîtresse ou derrière. Vous dites, ça prend des ampleurs incroyables pour les enfants fragiles, pour les enfants placés, ceux qui sont à l'hôtel et qui sont entourés d'adultes qui sont masqués.
Voilà. Et pour les apprentissages aussi. Vous vous rendez compte qu'on est en train d'avoir des enfants qui ont fait quasiment tout leur CP/CE1 avec une institutrice qui est masquée, avec deux autres enfants qui sont masqués. Le masque inclusif, pour ça transparent, n'est pas encore du tout suffisamment développé. Et serait intéressant parce que ne pas voir les lèvres quand on apprend à lire. Je pense que ça complique. Et c'est toujours pareil, ça complique les plus fragiles.
Ça complique et en même temps, Jean-Michel Blanquer disait il y a deux jours, il annonçait que les résultats des évaluations donnaient que les enfants ont globalement rattrapé les retards accumulés lors du premier confinement quand les écoles étaient totalement fermées, sauf évidemment en zone prioritaire où là les retards, les dégâts n'ont pas été gommés.
Voilà, il y a toujours cet écart entre les zones prioritaires. Alors le dédoublement des classes est quelque chose de très bien qui permet une meilleure prise en charge, mais là-dessus, sur la question de la réussite scolaire de tous, il faut absolument qu'on progresse beaucoup mieux parce que c'est toutes les études PISA le montrent régulièrement. Ce n'est plus possible qu'il y ait toute une partie de la population qui n'arrive pas à accéder à l'éducation qui est un droit.
Et puis il y a la question de l'addiction aux écrans qui, alors là, pour le coup, a explosé avec les confinements. Et ça entraîne, vous dites, les professionnels notent chez les enfants des troubles alimentaires, des troubles du sommeil, des troubles cognitifs et des troubles de l'attention. Les professionnels ont du mal à mobiliser les jeunes maintenant sur des projets.
Et avec aussi des injonctions un peu contradictoires, puisqu'on dit aux jeunes, mais là, il faut que tu sois devant un écran pour suivre tes cours. Les pronotes qui, du coup, l'ensemble des exercices et de ce qu'il y a à faire, des devoirs, sont mis justement sur informatique. On lui dit, ne passe pas trop de temps devant un écran, mais en fait, on lui demande de suivre des cours devant un écran. enfants. C'est des choses qui sont contradictoires, qui sont compliquées pour les enfants, et sans parler de tous ceux qui n'ont pas accès à Internet, qui n'ont pas d'ordinateur à la maison.
Plus largement, Claire Hédon, dans ce rapport du défenseur des droits que vous êtes, vous parlez aussi d'un autre phénomène, un phénomène qu'on a abordé lundi avec la jeune Tessae, dont on a beaucoup parlé avec le suicide le mois dernier de la petite Dina à 14 ans, c'est celui du harcèlement scolaire. Demain, ce sera la journée nationale du harcèlement scolaire. Et vous donnez ce chiffre qui m'a ahuri. En France, dites-vous, le nombre d'enfants harcelés chaque année dans leur environnement scolaire est d'environ 700 000. Il y a aujourd'hui 700 000 enfants qui sont harcelés?
Je dirais oui. Dans mon rapport d'étonnement, en étant depuis un an défenseur des droits, il y a cette question du harcèlement scolaire qui est beaucoup plus fréquent que ce que j'imaginais, beaucoup plus fréquent dans les réclamations que nous avons. Et ce qui est aussi frappant à chaque fois, c'est le retard dans la prise en charge et dans la prise en compte de la parole de l'enfant. On s'étonne toujours que l'enfant parle tard, mais quelles conditions on a mis pour que l'enfant puisse parler? Et qu'est-ce qu'on fait en termes d'éducation? Et là, je voudrais insister sur toute la partie prévention qu'on met dans notre rapport, c'est que c'est absolument indispensable à l'école de former l'enfant à ses droits, à la Convention internationale des droits de l'enfant, à la lutte contre les discriminations. C'est comme ça,
ça existe.
Il peut comprendre, mais ce n'est pas fait en pratique. Nous, on a une centaine de jeunes ambassadeurs des droits qui sont des services civiques, qui vont dans les écoles et qui font ce travail-là. Ça devrait être systématique. Pourquoi ? Parce que quand on parle à un enfant de ses droits, d'un seul coup, il comprend que ce qu'il est en train de vivre n'est pas normal. Ça sensibilise aussi les autres à se dire demain matin ce que je suis en train de faire en termes de harcèlement. Ça a des effets totalement délétères. Ça libère la parole. Et donc, ça, ce point-là est absolument indispensable. Et c'est pour ça que toute une partie de ce rapport est sur les questions de prévention. Agissons avant que les problèmes arrivent ou au tout début quand ils arrivent, alors que ce que je constate, c'est une prise en charge très tardive.
Mais Claire Hédon, on a toujours dit que les enfants étaient cruels entre eux. Je veux dire, on a toujours dit que dans les cours de récréation pouvaient être un lieu de souffrance pour certains enfants qui étaient rejetés. C'était le cas quand nous tous autour de la table étions enfants. Mais le harcèlement, il a augmenté, à votre avis? Alors, 700 000 enfants harcelés, ou c'est juste qu'on n'en parlait pas il y a 20 ou 30 ans?
Je pense que c'est très difficile parce que je suis pas sûre qu'il y avait d'études à ce moment-là qui permettaient de dire l'ampleur. Mais il y a sans aucun doute la question des réseaux sociaux qui donne une ampleur absolument incroyable et qui d'ailleurs aussi est très compliquée pour l'école à gérer parce que l'école dit mais en fait ça se passe sur les réseaux sociaux, c'est pas chez moi. Sauf que ce que nous constatons très souvent c'est que ça démarre à l'école et ça dérape après sur les réseaux sociaux. Et il y a toute une éducation à faire sur les réseaux sociaux.
C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe? Et ben, le gamin à l'école se fait rejeter,
se fait harceler et après ça part sur les réseaux sociaux et là après ça prend une ampleur qui est incontrôlable.
Vous dites c'est le drame absolu, le cyberharcèlement aujourd'hui. Tessae nous le disait, c'est-à-dire ce qu'elle recevait, tu te crois de belle mais t'es moche, suicide-toi. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'avant c'était dans la cour de récréation, dans la salle de classe, aujourd'hui ça devient public en fait, le harcèlement,
et surtout,
il se montre les uns les autres.
Et surtout ça se poursuit quand on est à la maison, du coup, parce qu'on est sur les réseaux sociaux, on voit ce qui se passe et donc il n'y a pas de pause. Et vraiment, je vous dis, la prise en charge la plus précoce me paraît quelque chose de très important et d'insister sur la prévention.
Les parents comme les professeurs devraient être formés à repérer les signaux faibles du harcèlement. C'est quoi des signaux faibles?
C'est vraiment dès qu'un enfant se met à ne plus parler, l'échec scolaire est quelque chose de très révélateur, de quelque chose qui se passe mal dans l'école. Et je redis, cette question qui peut paraître anecdotique de l'écoute de l'enfant, et surtout les drames qu'on voit actuellement sur les violences sexuelles, c'est vraiment écouter l'enfant et se mettre en condition pour l'écouter. Et pour ça, il faut qu'il ait l'habitude
de parler. Mais parfois, on banalise, on se dit, c'est une petite déprime passagère et ça va aller.
Et ben, en fait, c'est ça qu'on ne devrait pas dire. Voilà.
Et du coup, parfois ça l'est.
Parfois ça l'est. Mais oui, mais parce que si c'est pris à temps, justement. Mais c'est pour ça que je dis que ce rapport concerne tout le monde. Certes, tous les enfants, mais tous les adultes qui sont auprès d'enfants, pour les sensibiliser à ces questions-là.
Il y a aussi le phénomène préoccupant, et écrivez-vous, en pleine expansion de la prostitution des mineurs. Hier, le gouvernement a présenté lundi un premier plan national de lutte contre la prostitution des mineurs. Et de plus en plus de mineurs qui se prostituent aujourd'hui. Et c'est une des conséquences du porno facile sur Internet.
Sans aucun doute. Et là aussi, c'est repérage le plus précoce possible. Je pense que c'est très bien d'en parler des victimes. Ces jeunes sont des victimes et en parler, je veux dire, sensibilise à ces questions et permet aussi aux jeunes eux-mêmes de parler.
Claire Hédon, avant de rentrer dans le studio, vous m'avez dit j'ai eu deux étonnements depuis un an et demi que je suis défenseur des droits. C'est d'abord le nombre de décisions sur le harcèlement, ça vous nous l'avez dit. Et la deuxième chose, c'est quoi?
Et bien, sur les questions de discrimination, je suis encore très étonnée de la question des retours de congés maternité de femmes qui ne retrouvent pas leur poste, un poste équivalent, à salaire équivalent, et qui pour moi était une question réglée dans le domaine des discriminations, et elle ne l'est pas.
Mais je vous dis, de plus en plus de femmes reviennent de congés maternité. soit perdent leur boulot, soit ont des salaires
Exactement.
Qui baissent.
Vous voyez, notre rôle au quotidien en tant que défenseur des droits, c'est de rétablir les personnes dans leurs droits, qui qu'elles soient, et évidemment des personnes qui sont les plus éloignées du droit.
Et on voulait en parler ce matin. Voilà, merci Pierre Hédon et belle journée à vous. France Inter.